Gloire à Jésus. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Comme tu fais partie du peuple de Dieu, un peuple privilégié, pousse des cris de joie à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, j'ai. Ce soir, tu es venu rencontrer le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tu n'es pas venu à la rencontre d'un homme. Dis à ce seigneur de faire quelque chose dans ta vie, afin que ta vie, là où il y avait l'indiscipline, l'Éternel fasse quelque chose. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Jésus. Dis au Seigneur que tu ne veux pas être distrait. Tu ne veux pas perdre une portion de ce qu'il t'a réservé ce soir. Dis au Seigneur que toute autre voix en dehors de la sienne se taise et que tu l'écoutes parler. Seigneur, qui sommes-nous pour parler de ta part? Mais tu as bien voulu que ce soir, nous soyons le vase que tu remplis et qui se déverse dans la vie de tes enfants. Seigneur, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi sont nos cœurs ce soir. Nous soupirons après toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, notre mentor et notre coach, fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Parle, parle Saint-Esprit, parle Saint-Esprit, remplis-nous jusqu'en déborder de ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veillons nous asseoir. Cours dans ta discipline. Cours dans ta discipline. C'est le thème de notre exhortation de ce soir, de notre enseignement. Le verbe courir désigne une mobilité, mais une mobilité vers une destinée. Une destinée qui est connue avant de se mettre en mouvement. Courir dans ta discipline suppose alors aller vers une destinée en te débarrassant de tout ce qui peut t'encombrer pour arriver à cette destinée. C'est pourquoi on parle de discipline. La discipline en elle-même peut renvoyer à des attitudes et des règles à observer pour atteindre la destinée promise. Ce soir, donc, parler de courir ou cours dans ta discipline, suppose également qu'on a parcouru et qu'on a fait un certain nombre de choses. C'est le dernier thème du module 4, la discipline des vainqueurs. Et dans la discipline des vainqueurs, on a un mentor, on a un coach, c'est le Saint-Esprit. Il faut écouter la direction du Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous amène à donner, qui nous amène à agir. C'est ce Saint-Esprit qui nous permet d'être disciplinés et de courir dans ta discipline. C'est pourquoi nous refusons de parler sans référence au Saint-Esprit, sans référence à la personne de Dieu, sans référence aux Saintes Écritures. Alors, cours dans ta discipline. La Bible déclare que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens 14. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre, pas un Dieu de désordre. Et dans l'ordre, il a fait toutes choses en un temps et conformément à sa volonté, car le vouloir et le faire venant de lui. Il y a donc un temps pour toutes choses. Et si Dieu dit en Ecclésiaste chapitre 3 qu'il y a un temps pour toutes choses, cela suppose une discipline. Et Dieu, en créant le monde en 6 jours, a fait chaque chose en un temps. Et il a mis de l'ordre dans son monde. La discipline donc renvoie à de l'ordre, à des attitudes à avoir. C'est pourquoi il faut aussi se rassurer que la discipline peut être un couloir dans lequel Dieu t'a établi pour te déployer. Et l'apôtre Paul nous engage dans 2 Timothée 2, verset 4, à courir pour atteindre le but. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de son maître s'il ne court pas conformément aux règles. Tu ne peux pas atteindre ta destinée si tu ne cours pas dans ta discipline, avec discipline. Alors, nous allons examiner les actions qu'il ne faudrait pas mener ou qu'il faudrait exclure pour courir dans ta discipline. Le premier élément, ne sois pas léger. Ici, nous allons parler de 4 types de légèreté. La légèreté du point de vue physique, la légèreté du point de vue langagier, la légèreté du point de vue comportemental et la légèreté du point de vue éthique. Ne sois pas léger. Lorsqu'on parle de légèreté ici, c'est faire des choses avec désinvolture. Ce n'est pas, c'est manquer du sérieux dans ce que tu entreprends. Imagine un temps soit peu que Dieu, pour te créer, avait été léger, avait été distrait. Il aurait peut-être pris le sable à la place de la terre. Et tu serais une pierre dure comme une pierre. Mais il n'y a pas eu de légèreté dans la nature de Dieu. Et la Bible dit, tel Dieu est, tel nous sommes. Donc, nous sommes le prolongement de notre Créateur. Si lui, il n'a pas été léger en créant tout ce qu'il a fait, comment pouvons-nous être légers? Alors, lorsqu'on dit la légèreté du point de vue physique, il y a des personnes qui n'ont pas conscience que elles sont un chef-d'œuvre parfait. Qu'elles sont beaux et belles. Beaux et belles. La Bible dit que je suis une créature si merveilleuse. Il n'y a pas d'erreur sur ma nature physique. Et de ce point de vue, la légèreté physique va apparaître dans un complexe d'infériorité. On pense que physiquement, il y a un manque. Et parce qu'on pense qu'il y a un manque, on pense que les personnes beaux et belles, ce sont les personnes qui sont brunes, qui ont un teint clair. Et on entre dans la légèreté. La légèreté physique, on fait décapage, make-up, tout ça. On dit à Dieu, tu avais oublié quelque chose. On entre dans la légèreté. La légèreté physique renvoie encore au fait d'avoir les teints, on dit teint chocolat, chocolaté. C'est-à-dire que tu vois une personne, elle est noire ici, jaune en bas, ici, compliqué. Ça, c'est de la légèreté physique. La légèreté physique également, c'est au niveau vestimentaire. Vous voyez des personnes, quand elles s'habillent, elles n'accordent même pas de la considération en leur propre personne. Ou encore au Dieu qu'elles servent ou qu'elles sont supposées révéler. Si j'entre dans cette salle et que j'ai porté le kaba, vous allez faire comment? Vous allez me prendre au sérieux? Ce que je vais révéler, est-ce que vous allez prendre cela au sérieux? Je voudrais vous dire, bien-aimé, votre habillement, ne soyez pas léger. Si vous portez des habits qui dessinent vos formes, vous savez ce qui va se passer quand vous marcherez en route pour une femme? Comment reconnaît-on un endroit où il y a la poubelle? La présence des mouches, non? Voici ce qui va se passer quand vous allez marcher en route. Les hommes vont faire pzi, 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 pzi. La légèreté vous crée des problèmes. La légèreté physique. Vous devenez un problème pour vous-même et vous devenez un problème pour les autres. La légèreté comportementale. Il y a des personnes qui, du point de vue comportemental, 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, verset 16. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. La légèreté comportementale fait en sorte que des personnes oublient qu'elles sont un sanctuaire de l'Éternel. Avec les païens, elles font comme les païens. Quand elles entrent à l'église, elles adoptent l'attitude des gens de l'église. Ça, c'est la légèreté comportementale. La légèreté comportementale, c'est que tu n'as pas conscience que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu fais n'importe quoi dans ce corps-là. Tu es avec ton corps, tu peux faire tout ce que tu veux. Non. Non. Et dans 2 Timothée 2, l'apôtre Paul dit quelque chose d'important en ce qui concerne le comportement. Il dit que si tu vois les gens qui aiment la passion, particulièrement les gens de la jeunesse, il dit fuis les passions de la jeunesse. Ça dit que une musique sort, tu te trouves en train de danser ça sans te poser la question. Et on voit partout même des prédicateurs. Je suis allé à un obsèque. J'ai eu la honte d'être pasteur. Honte. Et même à un mariage. Comme si la parole de Dieu était finie. On prend les musiques, on prend la parole de tel musicien pour prêcher. On prend la parole de tel musicien pour exhorter le peuple de Dieu. Et on est là, on dit qu'on a prêché. Et les chrétiens sont au marché. Ça sort comme ça sort. Ça, c'est quoi ça? Il faut comprendre. On va maintenant dans la légèreté langagière. Et c'est là où je voulais aboutir. Que dit la Bible au sujet des paroles? Tu dois méditer. Méditer sur ce qui sort de ta bouche. Ouvrez vos Bibles dans Proverbes 8, verset 13. Proverbes chapitre 8, verset 13. Nous sommes là dans la légèreté langagière. Celui qui a trouvé, lit rapidement. Oui.
Proverbes 8, verset 13. Là, il est écrit. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Amen.
La bouche perverse. Aujourd'hui au Cameroun, quand les gens chantent les grossièretés, c'est là où on est content. La bouche perverse, c'est ce que l'Éternel est. A de la haine pour cela. Et la Bible dit que vos paroles soient peu nombreuses. Et qu'il faut avoir une langue exercée. Alors, toujours également sur la parole, la Bible déclare dans Proverbes 15, 28, le cœur du juste médite pour répondre. Le cœur du juste médite pour répondre. Mais la bouche des méchants répand de la méchanceté. Au niveau du langage, on ne doit pas être léger. Quand un chrétien veut parler, la discipline voudrait qu'il médite. Il interroge le Saint-Esprit. Il voit la gloire de Dieu dans ce qu'il est en train de vouloir dire. Si Dieu n'est pas glorifié dans ce que tu veux dire, tu te tais. Et tu ne parles pas. Il y a un monsieur qui est venu me voir quelque part. Ça, ce sont les tactiques de la manipulation du langage. Les gens qui parlent, ils vous disent, n'est-ce pas? Tu vois comment? C'est ça, non? Je ne réponds pas. Ça, c'est la manipulation du langage. Il parle, il est en train de dire des choses. Il dit que, là, pasteur, vous-même, vous voyez, non, c'est comme ça. J'ai dit que non, je ne suis pas d'accord. Il dit, hein? Pendant qu'il parle, il sort les yeux. Les autres font que dire, c'est bon. Eh bien, j'ai dit, là, je ne suis pas d'accord. On ne me manipule pas. La discipline, c'est que quand je suis quelque part, je dis ce que je pense. Et si je ne suis pas d'accord, je dis que je ne suis pas d'accord. On peut faire comme on veut. Je n'accepterai pas. Je ne suis pas d'accord par rapport à cela. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à manipuler les langages. Et on vous fait accepter ce que vous ne devez même pas accepter. Ça, c'est de la manipulation. Proverbe 13, 8 nous dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Oh, si tu ne veilles pas sur ta bouche, tu seras léger. Il y a des gens qui parlent, ils parlent, sans arrêt. Ils ne s'écoutent même pas parler. La Bible dit que celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Et la discipline voudrait que tu veilles sur ta bouche. J'ai évoqué précédemment la légèreté comportementale. Dans la légèreté comportementale, il y a un aspect que j'allais omettre, c'est l'indécision. Il y a des personnes qui sont indécises. Elles sont comme le vent. Elles sont comme la paille que le vent emporte. Et les jeunes dans cette génération sont véritablement des pailles. Les jeunes sont devenus de la paille. Somme numéro 1 nous dit que si tu es comme la paille que le vent emporte, tu n'as pas de fondement. Tu n'as pas de racines. Et les jeunes sont devenus des pailles. La drogue par-ci, tu vois tes camarades prendre le kitoko. Tu es dans le kitoko. Ça, c'est de l'indécision. Le suivisme. Tu vois les gens marcher. Le pantalon est loin ici, là. Ta part est là-bas. Ça, c'est de l'indécision. Tu ne suivras point la multitude dans son égarement. L'indécision. Les gens qui viennent voir le pasteur pour valider leur péché. Pasteur, il y a le funérail de mon grand-père. Je ne sais pas comment il veut faire. Je ne sais pas si je pars ou je ne pars pas. Moi, ils ne donnent pas les autorisations. Hein. Que dit la Bible à ce sujet? Je dis que bon, pasteur, je peux ne pas. J'envoie quand même ma contribution. Non, sinon, on va dire que je suis en train de diviser la famille. Mon ami, l'indécision, c'est que tu sois sur un fondement. Si tu veux être la paille, tu seras la paille. Être sur un fondement, c'est ce genre de choses, je ne le fais pas. Parce que je suis établi dans la parole et la parole me dit de ne pas le faire et je ne le fais pas. Ne pas être indécis. Indécis. Il y a des personnes qui sont dans l'église, elles sont comme des vagues. Elles sont comme des pirogues dans l'eau. Quand la vague vient, ça l'emporte et ça l'amène. Elles n'ont pas de fondement. Vous êtes à une réunion avec elles. Dès qu'on dit ceci, tout le monde dit oui. Après, on dit encore que ceci. Oui. Elles n'ont aucun fondement. Elles ne sont enracinées sur rien. Aujourd'hui, il faut voir les réunions. Toutes les chansons des réunions sont les chansons de l'église. Mais demandez à une personne si elle comprend ce que ça, ce qu'on dit là-dedans. Elle chante seulement. Même ce qui les condamne, elle chante. L'indécision fait en sorte que vous n'avez pas du respect pour vous-même et pour votre propre corps. Une jeune fille vient dire, pasteur, vraiment, dans ma classe, est-ce qu'on peut quand même avoir un petit ami? On ne fait rien, on apprend seulement. Laisse. Parce que tu veux être indécis. Ça dit que ça bouillonne dans ton cœur. Tu vois les autres en train de faire certaines choses. Tu es indécis. Tu n'as pas de fondement. Tu veux aussi plaire aux autres. Tu veux aussi être comme les autres. C'est ça l'indécision. L'apôtre Paul a ce sujet dans 1 Timothée 4. Il dit, toi, sois un modèle. Verset 16. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles en parole. Légèreté, langagère. Ce n'est pas ton partage. En parole, tu ne dois pas être léger. En acte, légèreté comportementale. Tes actes doivent parler. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. En foi, tu dois renverser les idéologies et les fondements. Et en pureté, car tu es un sanctuaire pour l'Éternel. Légèreté alimentaire. Dans la légèreté alimentaire, je vais choquer les gens ce soir. Il y a des gens qui sont un peu hypocrites. Tu dis que tu ne fais pas le funérail, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas te retenir devant la nourriture du funérail. Tu dis que tu ne dois pas manger le fruit de la prostitution, non? Mais tu connais que ta camarade, livre son corps prostitué. Viens partager le butin de la prostitution avec toi et tu manges. La chèvre broute là où elle est attachée. C'est ça les langages. Ça c'est la légèreté alimentaire. La légèreté alimentaire. Il faut savoir, la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Tu ne peux pas dire oui à quelque chose et après tu dis non à cette chose-là. Ou inversement. Deuxième élément, pour marcher, courir dans ta discipline, ne sois pas négligent. Oh, la négligence. Combien sommes-nous négligents? La Bible déclare dans Jérémie, maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Oui, Jérémie 48, verset 10. Fais une œuvre, quelle qu'en soit cette œuvre-là, dans n'importe quel domaine, même laver le sol. Je prends les choses les plus simples. Balayer la cour avec négligence. Toute œuvre que tu fais, c'est l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui au Cameroun, les fonctionnaires vont au bureau en comptant les jours et ils font l'œuvre du Seigneur dans les bureaux avec beaucoup de négligence. Vendredi, allez dans les bureaux, si vous allez voir même midi, 10h même, d'autres ne viennent même pas. D'autres viennent, ils remplissent seulement la fiche. Après, ils sortent, ils partent. Après, on va dire, le Cameroun est pourri, le Cameroun est malade. C'est ta négligence qui nous amène là-bas. C'est ta négligence. Si tu n'as pas conscience que tout ce que tu fais, c'est l'œuvre du Seigneur. Un jeune qui va au champ avec sa mère. Il y a des enfants avec lesquels il ne faut même pas souvent les amener au champ quand ils sont négligents. Il faut d'abord corriger la négligence là sur eux. Parce que vous les amenez au champ, ils vont faire deux sions, ils vont s'asseoir là. Il faut combattre la négligence. Quand tu balais la cour, un enfant il balait la cour, il esquive cet espace-ci. On a dit la cour. Il voit saleté. Mais il balaie ici. Il laisse là. Il l'a. Vous avez vu quand les enfants négligents lavent le sol? Il y a des endroits qui ont dessiné des formes comme ça. Il lave la place là. Il laisse la saleté. Il ne peut pas bousculer ça. Hein? Non. Il lave, il contourne. Ça, c'est faire l'œuvre avec négligence. Oh, la négligence! Combien de personnes viennent à l'heure au culte? Quand tu es en retard, ça trahit ta négligence. C'est de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline. Même commencer le culte après l'heure, c'est de la négligence. C'est de la négligence. C'est de l'indiscipline. La négligence a ceci de particulier. C'est que la négligence peut entraîner la perte de toute une nation. Vous savez ce qui s'est passé à la catastrophe de Sam et Fulan? c'est que quelqu'un avait été négligent au niveau des tuyaux de carburant. Il y avait une légèreté. Et comme le carburant sort avec une force, et cette légèreté-là a entraîné que le carburant s'est mis à se répandre. Et comme les gens ont la légèreté alimentaire, ils ont couru après le carburant. Et ce qui est arrivé, vous connaissez. Les jeunes, un camion de brasserie se verse. Ils viennent, ils s'asseyent. Ils boivent. C'est de la légèreté. C'est de la légèreté. Alors revenons à la négligence. La Bible dit, celui qui fait une œuvre avec négligence se trouve dans la malédiction. Maudit soit celui qui fait une œuvre avec négligence. Toutes les fois que tu fais une œuvre avec négligence, tu t'ouvres à la malédiction. Également, Dieu ne réserve aucune récompense à toute personne qui s'engage dans une œuvre avec négligence. Il y a d'autres qui sont... La négligence peut être aussi assimilable un peu à la paresse. Des personnes qui se relâchent dans leur travail. Vous travaillez chez quelqu'un parce qu'il a dit, vous lui avez demandé d'augmenter votre salaire. Il n'a pas augmenté. Vous commencez à vous relâcher dans votre travail. C'est que vous n'honorez plus Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, vous ne travaillez pas pour le Seigneur. Vous lui avez demandé d'augmenter votre salaire. Il n'a pas augmenté. Travaillez comme vous travaillez toujours. Maintenant, le relâchement va se traduire par le fait que, avant, vous veniez au travail à 7h. Maintenant, vous venez à 8h30. Avant, vous étiez le dernier à partir. Non. L'heure, c'est l'heure. L'heure, maintenant, devient l'heure. C'est l'heure. Et même avant l'heure partait. Ça, c'est le style, les signes du relâchement. Et c'est parce qu'on n'a pas compris que le travail que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Le Cameroun est l'un des pays où on a les hommes les plus paresseux. Les hommes qui sont dans le relâchement. C'est la même chose pour les élèves. Les élèves dans une classe pensent parfois que c'est quand ils vont travailler, quand ils seront adultes, qu'ils vont bien travailler. Non, détrompez-vous. Ce que vous êtes en classe maintenant, c'est ce que vous serez demain quand vous allez travailler. Il n'y a rien à faire. Si vous êtes dans le relâchement aujourd'hui, ce n'est pas demain que vous serez un habile travailleur. Non. Il faut sortir du relâchement. Proverbe 18, verset 9. Lisons cela.
Proverbe 18, verset 9. Là, il est écrit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Amen.
Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Donc, si quelqu'un a détruit une entreprise et toi tu te relâches, vous n'êtes pas différent. Ça veut dire que quelqu'un a participé à la destruction d'une entreprise et toi tu es seulement dans le relâchement. Tu vraiment, tu viens, on dit 7h, toi tu viens à 8h30 et on part à 17h, à 16h45 tu es déjà parti. Ou à 17h pile, même quand il y a le travail, tu dis ça va attendre. Vous savez, le problème au Cameroun, c'est que les gens travaillent et sont payés pas en fonction de leur travail. Dites, Jean, que désormais, on vous payera en fonction du travail que vous aurez abattu. Le Cameroun sera 30 fois développé. Oui, dans les pays anglo-saxons, c'est comme ça qu'on travaille. Allez au Kenya, allez au Ghana, allez en Afrique du Sud. Mon ami, tu n'as travaillé que 7 heures, tu as l'argent et ce n'est pas venir s'asseoir. Quand on dit, ce n'est pas le temps que tu dures au travail, ce n'est pas ça qu'on évalue. On évalue ce que tu as fait pendant ce temps-là. Ça veut dire qu'en 3 heures de temps, tu peux faire le travail de 10 heures de temps. On évalue ce travail et on paye en fonction de ce travail. Pendant que tout le monde aura beaucoup d'argent et il y aura beaucoup d'argent au Cameroun. Mais comme c'est le matricule qui donne l'argent, bon, on se contente du matricule. Refusez de travailler avec négligence, quel que soit le domaine ou les circonstances. Oui, les gens te détestent, mais ce n'est pas une raison de te relâcher dans ton travail. Les gens t'oppressent, mais ce n'est pas une raison de te relâcher dans ton travail. Les gens ont coupé ton salaire, une partie de ton salaire, parce que tu as commis une faute. Ce n'est pas une raison d'être négligent. Troisième élément, c'est la compromission. La compromission aujourd'hui est l'émanation de la négligence et de la légèreté. C'est parce que tu es léger ou tu fais les choses avec légèreté, parce que tu es négligent, alors tu es un bon candidat à la compromission. C'est-à-dire, comme tu n'as pas appris, comme tu veux avoir les notes, et tu sais que tu n'as pas appris, la compromission, c'est que tu as la note sexuellement transmissible. Comme tu n'as pas appris, tu as passé le temps à prendre le kitoko ou à fumer le char ou à manger le riz compliqué, n'est-ce pas? Les jeunes comprennent bien ce que je dis là. Le riz maçon. Ou à prendre le tramol. Maintenant, tu commences à taxer les gens, non? À l'école. Et tu prends l'argent, tu vas sudoyer le professeur pour dire, monsieur, voici votre vin. On vend le vin à l'école. Et c'est ça la compromission. Légèreté, négligence, et on est dans la compromission. La compromission aussi, c'est le fait de ne pas attendre en silence que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et David l'avait compris. Je sais attendre en silence que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il y a des gens, j'enseignais quelque part, il y a des gens qui ne sont pas prêts à attendre l'élévation de l'Éternel. Vous savez ce que les magistrats, les hommes de justice, les avocats, les huissiers disent de certains du Dieu des chrétiens? Ils disent que le Dieu des chrétiens, avec lui, il faut beaucoup attendre. Qu'avec le Dieu du chrétien, il faut beaucoup attendre. Et ils veulent le immédiatement là. Et comme ils veulent le immédiatement là, ils entrent dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, dans les trucs compliqués de homosexualité pour une ascension. La compromission vient quand tu commences aussi à te mesurer aux autres. Pourquoi je ne suis pas comme les tels? C'était même ma camarade de classe. Elle était même dernière en classe. Maintenant, c'est elle qui est le proviseur du lycée. Elle s'est couchée. Comme tu veux aussi être comme elle, elle va te dire le circuit qu'elle a emprunté. Et tu vas te compromettre. Tu ne sais pas ce qu'elle a compromis dans sa vie pour être là-bas. La compromission, la négligence, la légèreté sont des cousins. Ils vont ensemble. Et pour ne pas se compromettre, il faut être ferme. Commençons par le corps, la fermeté corporelle. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je tiens à la sujetie de peur d'après avoir prêché aux autres, moi-même je sois disqualifié. Il faut être dur avec votre corps. Des personnes qui laissent des autres toucher leur corps n'importe comment. Hey, ma coach, tu es belle, hein? Non, laissez ça. Ne touche pas mon corps comme ça. Il faut être ferme, dur avec son corps, avec soi-même. Mais pas une dureté qui repousse les gens. Mais une dureté qui enseigne les gens, une fermeté qui enseigne les gens. Si tu es dans un bureau, un monsieur te dit, allons prendre un pot. En vertu de quoi tu vas prendre le pot avec lui? Il y a des questions qu'il faut toujours poser. Et si tu es ton langage, on va comprendre que tu es le genre qui peut aller prendre un pot. Et on va te dire d'aller prendre un pot. Le pot va se prolonger là où tu peux imaginer. À cause de ta légèreté. Je suis ferme. Et j'ai dit un jour à une conférence des jeunes, aux femmes, que vous ne savez pas quel est le pouvoir que Dieu vous a donné. L'autorité que Dieu vous a donnée. Dans certains domaines pour être ferme. Mais quand on constate que les femmes sont de plus en plus légères, faciles, vous avez un pouvoir. Si un homme vient vous dire des choses, ma chérie, tu es très belle, merci, c'est un compliment qui arrive très tard. J'en suis conscient. Mais si vous n'êtes pas conscient, c'est comme une nouveauté quand on vous dit que vous êtes belle. Vous faites comme si c'était une nouveauté. Et quand vous faites comme si c'était une nouveauté, vous dites enfin. La suite c'est quoi? Et on va continuer. On va continuer. On te parle, si tu ne réponds pas, on te fait quoi? Il va prendre le temps là, il parle. Il dit non, je peux t'accompagner, il parle. N'est-ce qu'il est en train de t'accompagner? Il parle. Là où tu arrives, tu dois partir, tu pars. Qu'est-ce qu'il va te faire? Mais comme tu ne peux pas te tenir, tu n'es pas ferme. Il commence à parler. Après le bonjour, comment tu t'appelles? Toi-même, tu donnes le nom à quelqu'un que tu ne connais pas. Comment? Je peux t'accompagner. Vous avez eu un commun accord. La Bible dit que deux personnes ne marchent pas ensemble sans être tombées d'accord du but de la marche. Vraiment, je voudrais qu'on soit des amis. Est-ce qu'on était d'abord des ennemis? J'étais déclaré ennemi. Il y a des choses qui sont aussi simples. Parce qu'on n'est pas ferme. on commence à dire non, ce serait mal poli. Ce n'est pas mal poli que de ne pas répondre à quelqu'un. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Si tu n'es pas ferme, tu vas entrer dans la dilution. Tu vas diluer ce que tu voudrais dire aux gens. Et c'est un signe de la compromission. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dire non à leur mère. Je ne dis pas qu'il faut pas, qu'il faut dire non à sa mère. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Quand ce n'est pas conforme à la parole, quand ce n'est pas conforme à la parole, avec respect, courtoisie et amour, vous lui dites, maman, que dit la Bible à cause de la parole? Excuse-moi, je ne peux pas le faire. Elle va comprendre. Elle va comprendre. Dans ma famille, on avait dit qu'on devait mourir si on ne part pas chez le marabout. Et que moi, si j'allais mourir, bon, que j'allais mourir depuis 1992, parce qu'elle avait refusé. Comme j'ai refusé, on a dit qu'elle va mourir. J'ai dit aux gens que je ne vais pas mourir. Parce que Dieu a dit, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moi, je ne mourrai pas. Curieusement, celui qui avait dit que je devais mourir, j'aurais souhaité qu'avant de mourir, qu'il croit en Jésus. Mais hélas, il y a des choses sur lesquelles on se compromet très facilement. Les choses qui entraînent la peur. Si on ne travaille pas sur toi, tu vas mourir. Si on ne te lave pas, tu vas pas bien accoucher. Yeah. Avant, vous avez lu un jour dans la Bible que avant que Ève accouche ses premiers enfants, lavé. À la naissance de Jésus, on l'avait lavé Marie avant que. Il y a des choses que parfois, même le bon sens doit vous amener à refuser. Quel est le rapport entre l'enfant qui est dans le ventre et les contractions, entre les contractions et l'eau et les herbes qu'on va verser sur toi et quelques écorces là? Quel est le entre tout cela? C'est la compromission. La compromission vient du fait que on n'est pas prêt à perdre dans ta discipline. Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. La discipline, courir, c'est accepter de perdre pour gagner le royaume. Mais si tu ne veux pas perdre, tu vas te compromettre. Aujourd'hui, des gens, pour être nommés, il faut se compromettre. Il faut chercher de l'argent, porter les sacs de pommes, les cuvettes d'huile pour aller déposer quelque part. Vous savez, même notre église n'est pas épargnée de ce que je dis. Une année, quelqu'un vient me dire, vraiment, dans l'église, on va entendre de ces choses. Quelqu'un vient me dire, pasteur, vraiment, tu travailles très bien. Vraiment, on voit ton travail. J'ai même parlé de ça au président. Vraiment, il faut que tu arranges telle chose, tu peux donner au président. Vraiment, parce que, j'ai dit, mon ami, tu as dit, je travaille bien, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Je sais une chose. Je serai élevé au temps convenable. Si vous avez parlé de ça avec le président, parlez. Là où je suis là, je n'avais pas demandé à être là. Donc le jour où ils vont décider là-bas que je sois élevé, je serai élevé. Il a tourné, il dit que non, vraiment, si tu as même 100 000, comme ça, on va faire ceci. Et dit, mon ami, j'ai compris, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je refuse de me compromettre pour ce genre de choses. C'est que je cesse d'être serviteur du Dieu vivant. Avant les élections de Ngaoundéré, quelqu'un m'a dit, pasteur, prépare-toi, parce qu'après là, on va te renvoyer dans un village quand nous on va gagner. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais si Dieu que ce soit elle qui soit président, il n'y a pas de problème. Et là où il y a les chrétiens, il y a l'église. Donc tu penses qu'au village, c'est là où il n'y a pas les chrétiens. J'ai travaillé au village. Donc si je repars encore au village, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La bataille que vous voyez dans l'église là, c'est parce qu'il y a des gens qui voulaient régler des comptes. Et ils estiment que maintenant là, ce qu'ils voulaient faire peut retourner contre eux. C'est ça la compromission. Quand on se compromet, on a les mains liées. On est plus capable de dire non. On n'est plus capable de dire non à quelqu'un. Aujourd'hui, la compromission au Cameroun, c'est avec l'argent. L'argent. Dès que vous recevez de l'argent de quelqu'un, et que vous n'êtes plus capable de lui dire la vérité, c'est que vous êtes compromis. Donc, donnez tout l'argent que vous avez. Si je dois vous dire, je vais vous dire. Ça ne peut pas m'empêcher de vous dire ce que je dois vous dire. C'est impossible. Sinon, je cesse d'être serviteur du Dieu vivant. Donc, quelqu'un te donne quelque chose, espérant te compromettre. Si tu n'es pas capable de prendre et de ne pas te compromettre, n'en prends même pas. Si tu sais que ce que tu prends là va commencer à changer ton langage, ne prends pas. Dis merci que tu n'en as pas besoin. Si tu es capable de prendre et ne pas changer, prends. Dernier élément, que faire pour courir donc dans la discipline? Ce qui nous amène à courir dans la discipline, trois choses. Premièrement, rester focalisé sur Jésus et sur son œuvre. Deuxièmement, dépendre de lui. Jean chapitre 15, verset 5 à 11. Dépendant de Jésus, vous avez la joie dans toutes les situations. La joie de Christ en vous est parfaite. Même quand vous n'avez pas de l'argent, vous avez la joie. Vous avez la paix. Vous êtes heureux. Avoir le regard focalisé sur Jésus. Colossiens chapitre 3, au verset 1 à 3, nous dit de regarder aux choses d'en haut, où Christ est élevé. Il faut avoir le regard focalisé sur la personne de Jésus. Mais si vous avez le regard focalisé plutôt sur les choses qui vous distraient, on voit des gens qui abandonnent l'église parce qu'un pasteur a volé. Non, ce n'est pas bon pour le pasteur de voler. Mais il rendra compte au Seigneur. Il faut être focalisé. Ne pas laisser les choses ébranler votre foi. Mais également, la Bible dit, malheur à vous si vous êtes l'objet de scandale.
Mais comment on dit malheur à celui qui est l'objet de scandale? Lui, il a causé son scandale. Toi, maintenant, tu abandonnes. Tu commences, tu passes toute ta journée. À longueur de journée, tu ne parles que de son scandale. Tu oublies la parole. Et c'est ce que les chrétiens sont en train de faire. Satan veut nous distraire. Il y a des choses dans l'église qui sont moins importantes, dans la société qui sont moins importantes, qui ne sont que des distractions. Nous avons mieux à faire que de nous laisser distraire par des querelles de personnes. Également, nous ne devons pas perdre de vue qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour notre salut. Et c'est ce quelqu'un-là qui est important. Jésus-Christ est plus important que toute personne. Et je ne dois pas me laisser distraire. Même pas le pasteur. Le pasteur n'est pas plus important que Jésus-Christ. Car il rendra compte devant le Seigneur. Et si tu veux savoir pour ta gouverne, les pasteurs seront doublement jugés. Leur jugement sera terrible. Donc, toi, tu commences à te préoccuper des choses qui ne peuvent pas t'amener vers ta destinée. Il faut avoir le regard focalisé sur la personne de Jésus. Il faut saisir et rester dans ton couloir d'appel. Dieu t'a appelé et il t'a établi quelque part. Mais si tu commences à te distraire, tu vois, non, vraiment, on félicite trop la sœur là. Vraiment, on apprécie trop la sœur. Il faut aussi que je fasse comme elle. Tu vas sortir, ça c'est de l'indiscipline. Tu ne cours plus dans ton couloir. Et tu entres là dans ce qu'on appelle le désordre. Tu vois, une sœur a loué le Seigneur et elle a parlé en langue. Tu peux te cacher quelque part, tu apprends ta part. Ça, c'est de l'indiscipline. La sœur là, elle était en communion avec le Seigneur. Et pourquoi elle a fait ça? Elle a parlé. Mais toi, tu commences à fabriquer les choses pour être comme les autres. Ça, c'est le désordre. Tu n'es plus toi. Si Dieu veut que tu parles en langue, tu vas parler en langue. Il y a des choses qui sont plus importantes pour ton affermissement. Alors, Philippiens 3, versets 13 à 14, nous allons lire pour terminer. Philippiens 3, versets 13 à 14, celui qui l'a trouvé, le lit pour nous.
Philippiens 3, 13 à 14, là il est écrit. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Philippiens 3, versets 13 à 14. Là, il est écrit. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen.
Il y a un but. C'est ça. Cours vers le but pour remporter tes échecs d'hier, tes fardeaux d'hier, tes lourdeurs d'hier. Ne regarde plus à ça. Ne te lasse pas. Ne dis pas, ouais, je ne peux pas. Hier, j'avais essayé, j'ai échoué. Non, laisse ça, c'était derrière. C'est devant. Cours vers le but. Sois focalisé vers le but. Reste discipliné dans le but pour lequel tu es appelé à courir. Amen. On va se lever pour la prière.
identifie les aspects où tu as été négligent, où tu n'as pas couru avec discipline, où tu as manifesté la légèreté, où tu t'es compromis, et présente-les au Seigneur. Peut-être dans ton langage, tu as été léger. Tu as été léger dans ta tenue vestimentaire. Tu as manifesté la légèreté dans ton comportement. Tu as manifesté la légèreté du point de vue alimentaire. Si tu étais sur le point de te relâcher, dis: Seigneur, j'ai compris ton interpellation ce soir. Je refuse de me relâcher. Dis à Jésus que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que tu vas maintenir ce corps inébranlable. Tu vas le garder dans la pureté. Tu vas le garder loin de la compromission. Tu vas rester ferme. Dis à Jésus que tu veux dépendre de lui. Dis à Jésus que tu as besoin de son Saint-Esprit pour ne pas te laisser distraire. Tu as besoin de sa présence à chaque instant pour rester focalisé sur lui. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci parce que tu ne veux pas nous voir vivre dans la légèreté, dans la négligence, dans la compromission. Mais tu veux nous voir dépendre de toi. Ô Seigneur, nous acceptons de dépendre de toi. Nous nous soumettons à ta parole. Nous nous soumettons à ta seigneurie. Loin de nous la pensée de te trahir pour quelques plats de lentilles. Loin de nous la pensée de te trahir pour une élévation humaine. Loin de nous la pensée de te trahir à travers notre comportement, à travers des tenues dégradantes. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen.